Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Depuis quelques mois, nous vous proposons chaque jour de partager avec nous les lettres des pères du désert. Ces premiers pères de l'Église, qui sont le tronc commun entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, puisqu'ils commencent à écrire dès le IVe siècle, donc bien avant le schisme entre Byzance et Rome. Nous avons déjà médité sur l'œuvre d'Antoine le Désert, Macaire, Silouane, Climaque, Séraphime et tant d'autres. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'œuvre de Jean Cassien, qui était un moine scythe et qui vécut au IVe siècle. Aujourd'hui, nous poursuivons nos entretiens avec les conférences de Saint Jean Cassien. Il va aborder aujourd'hui d'ailleurs quelles sont parmi nos prières celles qui seront exaucées. Et pour commencer, disons encore quelques mots sur les larmes. Entre ces larmes et celles que l'on se tire à grand-peine lorsque le cœur est dur et les yeux obstinément secs, il y a bien la distance. Il ne faudrait pas croire pourtant que celle-ci soit tout à fait infructueuse, car c'est un bon sentiment qui les fait rechercher. Par cela surtout, qu'ils n'ont pu parvenir encore à la science parfaite, ni se purifier entièrement de leurs vices passés et présents. Mais pour ceux qui sont arrivés à l'amour de la vertu, qui ne se mettent pas ainsi à la torture et ne s'attachent point à tant de prix aux larmes de l'homme extérieur, lors même que l'on réussirait tant bien que mal à les faire couler, elles ne peuvent avoir de proportion avec l'effusion spontanée des larmes. Bien plutôt, les efforts qu'elle réclame arracheront l'âme à sa prière pour la baisser et la plonger en des pensées humaines. Ils la feront déchoir de la hauteur sublime où elle se doit tenir immuablement fixée dans un religieux saisissement. Ils la contraindront de relâcher de l'ardeur de sa prière pour se fatiguer à de pauvres larmes stériles et forcées. Afin de vous donner l'impression de ce qu'est la vraie prière, ce n'est pas mon sentiment que je vous dirais, mais bien plutôt celui du bienheureux Antoine, Antoine le Grand. Je l'ai vu demeurer si longtemps en oraison que souvent les premières lueurs du soleil levant le surprenait dans son extase. Et je l'ai entendu qui s'écriait alors, dans la ferveur de son âme, « Ô soleil, pourquoi me troubler ? Tu ne te lèves si tôt que pour m'arracher aux clartés de la vraie lumière. » C'est de lui encore qu'est cette parole céleste et plus qu'humaine sur le degré le plus élevé de la prière. La prière n'est point parfaite, disait-il, où le moine a conscience de soi et connaît qu'il prie. Si l'audace est permise à ma faiblesse d'ajouter quelque chose à cette admirable parole, je dirai ce que l'expérience m'a révélé, des marques auxquelles on reconnaît qu'une prière est exaucée du Seigneur. Si nulle hésitation n'est venue traverser notre prière et que nulle pensée de doute n'en ait brisé le confiant élan, si au contraire, nous avons le sentiment intime d'avoir obtenu ce que nous demandions dans l'effusion même de notre prière, celle-ci, n'en doutons pas, a été efficace auprès de Dieu. Car ce qui nous vaut d'être exaucé, d'obtenir satisfaction, c'est la foi au regard de Dieu sur nous et la confiance qu'il a le pouvoir d'accorder ce qu'on lui demande. Notre Seigneur ne peut reprendre sa parole. « Tout ce que vous me demanderez dans la prière, dit-il, croyez que vous l'obtiendrez, et il vous sera donné. » Cette confiance, dit Germain, d'être entendu, émane, croyons-nous, de la pureté de la conscience. Mais nous, qui sentons encore dans notre cœur la douloureuse épine du péché, comment pourrions-nous l'avoir ? Quel mérite nous autorise à présumer que nos prières doivent être exaucées ? Notre maître Isaac répondit, « Les causes qui nous font exaucer sont diverses, comme les âmes et leurs dispositions, témoins, l'Évangile et les prophètes. C'en est une que deux âmes soient unies dans leurs prières. Le Seigneur lui-même nous l'a marqué, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, quoi qu'ils demandent, mon Père qui est aux cieux le leur donnera. Vous en avez d'autres. Dans la plénitude de cette foi qui est comparée au grain de sénevé, si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne, passe de cet endroit à cet autre, et elle y passera. Et rien ne vous sera impossible. Troisièmement, dans l'assiduité de la prière. Cette persévérance qui ne se lasse pas de demander, le Seigneur l'appelle importunité. En vérité, je vous le dis, si l'amitié ne le décide, l'importunité du moins le fera lever et donner à son ami tout ce dont il a besoin. Quatrièmement, dans le fruit de l'aumône. Dépose ton aumône dans le cœur du pauvre et elle priera pour toi au jour de la tribulation. Encore, dans l'amendement de la vie et les œuvres de miséricorde, selon cette parole, brisez les chaînes de l'impiété, ôtez les fardeaux qui accablent. Et, après quelques mots, où il flagelle la stérilité d'un jeune infructueux, le prophète ajoute, « Alors, tu appelleras, et le Seigneur t'exaucera. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Quelquefois, enfin, c'est l'excès de la tribulation qui nous fait exaucer, témoin à ses paroles. Dans la détresse, j'ai crié vers le Seigneur et il m'a exaucé. Et encore, ne maltraitez pas l'étranger, car s'il crie vers moi, je l'exaucerai, parce que je suis miséricordieux.
Prions dans le secret.
Demandez, nous dit le Seigneur, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Et qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Et encore, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez et rien ne vous sera impossible. Si dans notre indigence, nous n'avons à faire valoir aucun des titres indiqués plus haut qui méritent à la prière d'être exaucés, armons-nous du moins de cette pressante importunité qui, sans exiger ni grand mérite ni difficile labeur, est à la portée de qui la veut. Mais soyons bien persuadés que notre prière ne sera pas exaucée si nous doutons qu'elle le soit. L'apôtre Paul suppliait d'un jour que fût écarté l'ange de Satan, que la volonté bienfaisante du Seigneur avait mis près de lui pour le souffleter. « Par trois fois, dit-il, je prierai le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et il me répondit, « Ma grâce te suffit. » Car c'est dans la faiblesse que ma force se montre tout entière. Telle est aussi la pensée que notre Seigneur exprimait dans son humanité, afin de nous donner en cela, comme pour le reste, un modèle à imiter. Lorsqu'il disait, « Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, qu'il en soit non comme je veux, mais comme vous voulez. » Et pourtant, sa volonté n'était pas différente de celle de son Père, car il était venu sauver ceux qui avaient péri et donner sa vie pour le rachat d'un grand nombre. De sa vie, il dit lui-même, « Personne ne me la ravit. C'est de moi-même que je la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Sur l'union continuelle de volonté qui régnait entre son Père et lui, le saint roi David lui fait dire, au psaume 39, « Je viens pour faire votre volonté, je le veux, ô mon Dieu. » Nous lisons, il est vrai, au sujet du Père, « Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. » Mais nous trouvons au sujet du Fils cette parole. Il s'est donné pour nos péchés. Il est dit du Père, il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous. Mais il est dit du Fils, il s'est offert parce qu'il l'a voulu. L'union de volonté entre le Père et le Fils est ainsi partout exprimée jusque dans le mystère de la résurrection, où nous voyons qu'ils n'eurent l'un et l'autre qu'une seule et même opération. C'est le Père qui, selon le bienheureux apôtre, a ressuscité le corps de son Fils. Par Dieu le Père, dit-il, qu'il a ressuscité des morts. Mais le Fils proteste aussi qu'il relèvera le temple de son corps. Détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours. Instruits à l'exemple du Seigneur, nous devons conclure toutes nos prières par un vœu pareil au sien et ajouter à toutes nos demandes cette parole. Cependant, qu'il en soit non comme je veux, mais comme vous voulez. C'est le sens de la triple inclination qui se fait dans les assemblées des frères pour la conclusion de la synaxe. Mais il est bien évident que le moine, alors absorbé dans sa prière, ne prendra pas garde à cette pratique. Nous devons mettre un soin tout particulier à suivre le précepte évangélique qui nous commande d'entrer dans notre chambre et d'en fermer la porte pour prier notre Père. Voici comment l'accomplir. Nous prions dans notre chambre. Lorsque nous retirons entièrement notre cœur du tumulte et du bruit des pensées et des soucis, et que dans une sorte de tête-à-tête secret et de douce intimité, nous découvrons au Seigneur nos désirs. Nous prions la porte close lorsque nous supplions sans ouvrir les lèvres et dans un parfait silence. Celui qui ne tient pas compte des paroles, mais regarde au cœur. Nous prions en secret lorsque nous parlons à Dieu par le cœur seulement et l'application de l'âme, et ne manifestons qu'à lui nos demandes, si bien que les puissances adverses elles-mêmes n'en puissent deviner la nature. Telle est bien la raison du profond silence qu'il convient de garder dans la prière. Nous ne devons pas avoir en vue seulement de ne pas distraire les frères qui nous entourent par nos chuchotements et nos cris, et de ne point faire obstacle à leurs âmes en prière, mais aussi de cacher à nos ennemis, qui multiplient alors surtout leurs attaques, le but de nos demandes. Par là, nous accomplirons le précepte « Tiens ta bouche fermée à celle qui dort sur ton sein ». Aussi, nos prières doivent-elles être fréquentes, mais courtes, de peur que si elles se prolongeaient, l'ennemi qui nous guette n'eût la faculté d'y glisser quelques distractions. C'est là le sacrifice véritable, le sacrifice que Dieu veut. C'est un cœur contrit. C'est là l'oblation salutaire, l'offrande pure, le sacrifice de justice, le sacrifice de louange. Ce sont là les victimes grasses et les holocaustes remplis de moelle, offrande d'un cœur contrit et humilié. Si nous les présentons nous-mêmes à Dieu, selon la méthode et avec la ferveur que nous avons dite, nous pourrons chanter avec la certitude d'être exaucés. Que ma prière monte comme l'encens devant votre face et que mes mains s'élèvent comme le sacrifice du soir.
Fuyons la confusion des foules.
C'est le degré de sa pureté, je l'ai dit dans la précédente conférence, qui détermine pour une âme l'éveil et le dessein de sa prière. Elle perd de vue plus ou moins les choses terrestres et matérielles, selon que sa pureté la fait monter plus ou moins. De là vient aussi qu'elle ne voit Jésus que dans l'humilité de sa chair, ou déjà le contemple intérieurement dans sa gloire et venant parmi l'éclat de sa majesté. Il est impossible de le voir venant dans la gloire de sa royauté à qui est encore esclave de cette infirmité, en quelque sorte judaïque, et ne peut dire avec l'apôtre « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Mais ceux-là seuls contemplent d'un regard très pur sa divinité, ceux qui s'élèvent au-dessus des œuvres et des pensées terre à terre pour se retirer avec lui sur la haute montagne de la solitude. Libre du tumulte des pensées et des passions de la terre, éloigné de la mêlée confuse de tous les vices, dans les hauteurs sublimes d'une foi très pure et des plus éminentes vertus, elle révèle la gloire de la face du Christ et la vue de sa splendeur à ceux qui sont dignes de le contempler du pur regard de l'âme. Fuyons la fièvre et la confusion des foules, afin de reproduire dès cette vie quelque image, du moins, de l'état bienheureux promis aux saints dans l'éternité, et que pour nous se réalise la parole de l'apôtre « Dieu, tout en tous ». C'est alors que nous verrons parfaitement réaliser la prière que notre Seigneur fit à son Père pour ses disciples. Afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux et eux en nous. Afin que tous soient un, comme vous, Père, êtes en moi et moi en vous. Afin que eux aussi soient un en nous. La parfaite dilection dont Dieu nous aime le premier passera dans notre cœur par l'accomplissement de cette prière du Seigneur dont notre foi nous dit qu'elle ne saurait être vaine. Et voici quelles en seront les signes. Dieu sera tout notre amour et notre désir. Toute notre étude et tous nos efforts, toute notre pensée, toute notre vie, une image de la future béatitude et d'avoir actuellement du Père avec le Fils et du Fils avec le Père nous sera communiqué dans le sentiment et l'esprit. De même que Dieu nous aime d'une charité vraie et pure et qui ne meurt point, nous lui serons unis par l'indissoluble unité d'une dilection sans défaillance, tellement attachés à lui que toute notre respiration, toute notre vie d'intelligence, tout notre parler ne seront que lui. Ainsi parviendrons-nous à la fin que nous avons dite et que le Seigneur souhaitait pour nous dans sa prière, afin que tous soient un, comme nous sommes un, moi en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'un. Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je suis, il soit avec moi. Tel doit être le but du solitaire. C'est à quoi doit tendre tout son effort mérité de posséder dès cette vie notre parole et notre respiration. L'unité qui existe comme un avant-goût dans son corps mortel de la vie et de la gloire du ciel. Tel est, dis-je, le terme de toute la perfection. Que l'âme soit à ce point délestée des pesanteurs charnelles, qu'elle monte chaque jour vers les sublimités des réalités spirituelles, jusqu'à ce que toute sa vie, tout le mouvement du cœur, devienne une prière unique et ininterrompue. Mon Dieu, venez à mon aide. Hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Ce n'est pas sans raison que ce court verset a été particulièrement choisi de tout le corps des Écritures. Il exprime tous les sentiments dont la nature humaine est susceptible. Il s'adapte heureusement à tous les états et convient en toutes les sortes de tentations. On y trouve l'appel à Dieu contre tous les dangers, une humble et pieuse confession, la vigilance d'une âme toujours en éveil et pénétrée d'une crainte continuelle, la considération de notre fragilité. Il dit aussi la confiance d'être exaucé et l'assurance du secours toujours et partout présent. Car celui qui ne cesse d'invoquer son protecteur est bien certain de l'avoir près de soi. C'est la voix de l'amour et de la charité ardente. C'est le cri de l'âme qui a l'œil ouvert sur les pièges à elle tendus, qui tremble en face de ses ennemis et se voyant assiégée par eux nuit et jour, confesse qu'elle ne saurait échapper si son défenseur ne la secourt.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.